Alléluia, Seigneur. Tu fais toutes choses à merveille, Seigneur. Seigneur, nous t'avons remis notre vie, Seigneur. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Et c'est toi qui nous reconstruis, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses à merveille. Ce que tu as commencé dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, tu vas le terminer parfaitement, Seigneur. Notre confiance, elle est en toi, Seigneur. Nous t'avons remis toute notre vie. Et maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de ce que les autres pourront dire sur nous. Maintenant, c'est ce que tu dis sur nous qui compte. C'est ce que tu dis sur nous, Seigneur, qui construit notre vie. Alors continue l'œuvre que tu as commencée à travers cette restauration, à travers ces enseignements, l'œuvre que tu as commencée dans chacun d'entre nous. Seigneur, continue ton œuvre et parfaire-le parfaitement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà ce que la fin de faire la paix avec soi nous amène à dire. Maintenant, j'affirme que ce n'est plus ce que les hommes ont dit sur moi qui me définit. Non, ce qui me définit, c'est ce que Dieu dit sur moi à travers sa parole. Voilà le grand changement de cette conclusion de faire la paix avec soi-même. On ne peut pas, la réalité qu'on a à travers la parole de Dieu, c'est qu'on ne peut pas compter sur les êtres humains pour nous construire, pour qu'on soit solide, pour définir qui on est, pour l'image que nous avons. Tout être humain a un problème avec son estime de soi. Et c'est normal, puisqu'il a été construit avec des êtres humains imparfaits. Et malheureusement, la nature humaine étant, eh ben, on a tous reçu, malheureusement, des blessures. On a tous eu des jugements définitifs, comme ça a été dit dans la chanson. Mais en réalité, tout ça, c'est normal, puisque ce sont des êtres humains totalement imparfaits, tous pécheurs, qui ont eu ce droit sur nous de dire les choses. Que ce soit nos parents, que ce soit la famille proche, que ce soit des hommes ou des femmes en autorité, que ce soit des professeurs à l'école, que ce soit les fréquentations qu'on a eues après, tout ça nous a définis, mais malheureusement, ça nous a mal définis. Mais ça a entraîné en nous, plus ou moins, une mauvaise estime de nous-mêmes, une mauvaise image de nous. Mais aujourd'hui que nous sommes chrétiens, le narratif doit changer. Notre histoire, on l'a vu à l'étape 4, revoir notre histoire à travers les Écritures, nous amène à dire qu'on ne peut pas se fier à ce que nous ont dit les êtres humains. On ne peut pas définir ce qui nous est arrivé à travers nos circonstances de la vie. Puisque, à la base de tout, le péché, à la base de tout, a décidé quelque part pour les êtres humains. Quand vous avez quelqu'un qui est foncièrement méchant dans sa vie et qui va avoir un droit de regard sur un enfant, il va avoir sur définir un enfant, ben évidemment que cet enfant-là va souffrir de la situation dans laquelle il est et d'avoir quelqu'un en autorité qui va le définir au fur et à mesure de sa vie. On le comprend facilement. Mais ça, quand on vient à Dieu, et ben dans la restauration, on comprend qu'on doit revoir tout ça à la lumière des Écritures. Et à la lumière des Écritures, ce qui compte, la vérité, c'est ce que Dieu dit sur nous. Mais ça ne va pas sans faire un travail de fond qu'on est en train de faire à travers la restauration. C'est que pour nous, il faut lâcher prise. Il faut aussi accepter cette réalité. Des fois, notre propre bourreau, c'est nous. Parce qu'on a du mal à accepter cette vérité et cette réalité. Et on se bat avec l'image de nous-mêmes, avec notre estime de nous-mêmes. Et ça nous joue des tours. Et on le verra à travers cette relation avec les autres. On ne peut pas être en bonne relation avec les autres et les accepter comme ils sont si nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne image de nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas, le verbe que je vais employer, sécure. C'est un verbe qui ne doit pas exister. C'est les Canadiens utilisent ce verbe-là. Mais ça, on comprend bien, sécure. Est-ce que je suis sécure? Vous savez ce que ça veut dire pour la Bible, être sécure? Ça veut dire que je suis enraciné en Jésus-Christ. J'ai le fondement, je suis dans un fondement. Vous avez la parabole de la maison qui est construite sur le sable et la maison qui est construite sur le roc. Avant de connaître le Christ, ma vie était construite sur le sable. C'était mouvant, il suffisait d'une mauvaise parole, il suffisait qu'il se passe quelque chose, il suffisait qu'on me rejette, il suffisait que je rate quelque chose et tout s'écroulait parce que j'étais bâti sur le sable. Mais maintenant que nous sommes enracinés, nous sommes bâtis sur le roc, là, on ne dépend plus des hommes. Ça veut dire que dans nos conversations, il y en aura toujours, dans les amitiés, dans notre famille, on aura toujours des choses difficiles à vivre, comme des jugements, des critiques, des paroles, des reproches. Mais si on n'est pas sécure, si on ne sait pas qui on est en Christ, ces paroles-là auront toujours un effet sur qui on est. Et ça aura un effet sur notre réaction, sur notre comportement. Mais si on veut être en paix avec les hommes et qu'on est en paix avec nous-mêmes, c'est la condition que je suis sécure, je sais qui je suis. Et donc, quand quelqu'un va me dire quelque chose, ce qu'il me dit ne me définit pas. C'est Christ qui me définit. Et je peux être en paix avec cette personne-là. Je peux être en paix. Je peux comprendre que, elle n'a peut-être pas la chance d'avoir Christ comme fondement et peut-être qu'elle est malheureuse. Elle a aussi des dysfonctionnements qui l'amènent à parler comme ça, qui l'amènent à me critiquer. Oui, parce que le monde est imparfait et les gens qui m'entourent sont imparfaits. Et moi-même, je suis imparfait. Donc, dans ce monde de pécheurs, on a besoin de miséricorde, on a besoin de compassion si on veut s'en sortir. Parce qu'on sera toujours exigeant, sinon avec les autres, on aura toujours des attentes avec les autres, mais des attentes irréalistes. Alors des fois, ça se passera bien, gloire à Dieu, alléluia. Et des fois, malheureusement, ça ne se passera pas trop bien. Mais est-ce que pour autant, je perds ma paix? Non! Même si sur un moment, je suis un petit peu ébranlé parce que c'est venu chercher quelque chose en moi qui est encore fragile et que l'émotion qui a surgi m'a un peu ébranlé. Oui, c'est possible parce que nous sommes des êtres d'émotion. Mais rapidement, je me reprends et je me dis, c'est pas ce qu'elle a dit qui me définit. C'est Christ qui me définit. C'est le regard de Christ qui me définit. Et ça permet de relativiser ce que la personne qui est en face de toi est en train de dire sur toi. Et c'est comme ça qu'on peut rester dans la paix. On va le voir ce soir, encore une fois, cette fameuse phrase, c'est l'image de Christ à la croix. À la croix, Christ est rejeté. Christ à la croix, il est humilié. Il est abandonné par les siens à la croix. À la croix, il subit toutes sortes d'injustices. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait et on est en train de le crucifier. Mais l'attitude de Christ, c'est l'attitude qu'on peut avoir quand on comprend comment le monde fonctionne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans ton cœur, tu peux dire à la personne qui est en face de toi, mais la pauvre, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est sous l'influence du péché. Elle ne le sait pas. Bien sûr qu'on ne va pas s'amuser à lui dire ça parce qu'elle ne va pas nous comprendre. Elle va dire, mais t'es complètement malade. Oui, c'est clair. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. C'est que là, on ne sait pas pourquoi, mais elle est complètement dysfonctionnelle. Et elle n'est pas bien. Okay, mais moi, est-ce que je dois m'aligner sur son dysfonctionnement? C'est-à-dire parce qu'elle s'énerve, parce qu'elle est en colère, est-ce que moi je dois perdre ma paix et je dois me mettre au même niveau qu'elle et puis on y va, on sort les épées et puis on va dans le combat charnel. Je dis des fois, on va dans le poulailler. Et puis allons-y, on se picore. On n'est pas appelé à ça. Et en tout cas, moi je n'ai pas envie de perdre ma paix pour cette personne-là. Même si c'est ma femme. Je suis désolé. Mais je peux comprendre qu'elle n'est pas bien et qu'elle s'énerve et puis qu'elle a encore des problèmes. Mais oui, ben moi aussi, j'en ai encore. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Mais le principal, c'est que je ne me sente pas attaqué dans mon identité, dans la valeur que j'ai. Tout est là. Si je fais bien la différence et que je dis ma valeur, c'est Christ qui l'a définie à la croix et je sais qui je suis, aucun être humain n'a le droit de me définir. Ce n'est pas de la prétention, simplement une réalité. Et quand la personne qui est en face de moi me fait des reproches, et parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça, parce que je n'ai pas été... Non, mais... Ok, je ne suis pas parfait. Ok. Mais je reste calme. Parce que ça, ce n'est pas pour autant que j'ai une mauvaise valeur, une mauvaise estime de soi. Non, pas du tout. C'est que je ne suis pas arrivé au niveau qu'il faudrait, sans doute. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je vous dis, c'est fondamental. Si vous voulez rester en paix avec les êtres humains, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que les êtres humains, des fois, ça se passera bien. Ben là, il n'y a pas d'effort à faire. Hein. Quand ça se passe bien, alléluia, gloire à Dieu. Là, je parle pour les fois où ça ne se passe pas trop bien. Hein, et qu'on vous attaque verbalement, qu'on vous fait des reproches. Ok. Pas de problème. Mais l'émotion, je dois gérer mes émotions. Et plus je serai ancré en Christ et je sais qui me définit, moins mes émotions seront à fleur de peau. Moins je répondrai de manière impulsive. Je pourrai rester dans la paix, dans la douceur, dans le calme et la confiance. C'est extraordinaire. Et le Saint-Esprit nous permet de vivre cette expérience-là. Est-ce que ça vous paraît possible ou est-ce que je sors d'une autre planète? C'est possible? Ernest, c'est possible? Hein, tu y penseras avec ta femme. Ouais, c'est pas facile. Tu penseras à ce que je t'ai dit ce soir quand ça va mal se passer avec ta femme. À partir de maintenant, conformément à sa parole, j'aime tous les hommes de l'amour de Dieu. Ça, c'est la clé. J'aime tous les hommes. Je ne les aime pas par affinité. Hein, je ne les aime pas parce qu'on a des choses en commun, on aime ça tous les deux. Non, parce que des fois, on ne connaît même pas les gens. Mais on les aime de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grief a priori pour ces gens-là. On perd nos vieilles habitudes, ou en tout cas, on les corrige. Hein, du style, oh, regarde celle-là, elle est grosse. Hein, oh là là, pfou, là là. Oh, regarde celle-là, comment elle est habillée. Oh, regarde celle-là, comment... Non, on arrête avec tout ça. On arrête avec tout ça, pourquoi? Parce qu'on les aime à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Dieu nous a aimés, on n'était pas aimables. Et il nous a aimés. Et nous, c'est de dire, mais Seigneur, je suis ton enfant maintenant, je te ressemble de plus en plus. Et bien moi aussi, avec l'amour de Dieu qui coule en moi, ben moi aussi je suis transformé et j'aime les gens. Je n'ai pas d'a priori sur les gens. Ça ne veut pas dire que peut-être que je serai pas d'accord avec tous les gens. Ça ne veut pas dire que je vais forcément tisser des relations amicales avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je n'ai pas d'a priori sur eux, que ils me dérangent. Je ne les aime pas parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Je ne les aime pas parce qu'ils sont d'une autre couleur. Je ne les aime pas parce que je ne sais pas quoi encore on pourrait inventer. Mais tout ce qui faisait notre nature charnelle ou tout ce qui est différent de moi, eh ben je ne l'aime pas, mais ça, c'est abandonné au profit de l'amour de Dieu. Et c'est la clé. Parce que quand vous aimez, votre comportement, il est complètement différent. Quand vous abordez des gens et que vous les aimez par a priori, par définition, j'aime les gens, eh ben ça se passe différemment. Et si vous venez avec les gens en guerre, hein, et que vous arrivez là avec déjà une charge déjà négative, il y a de grandes chances que ça se passe mal. Donc, à partir de maintenant, conformément à sa parole, j'aime tous les hommes de l'amour de Dieu, mais je ne suis plus prisonnier de leurs paroles ou de leurs actes. Mes réactions sont désormais conditionnées par la parole de Dieu et je les rends libres en leur pardonnant leurs fautes comme je leur demande de pardonner les miennes. Amen. C'est une clé. C'est une clé des relations humaines. Je ne suis plus prisonnier de leurs paroles et de leurs actes. Quand vous réalisez que les reproches qui vous sont faits, qui peuvent être vrais, ne viennent plus déterminer qui je suis. Parce qu'il faut avoir, il faut réfléchir. Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je réagis de telle manière? Parce que ce qu'elle dit vient me chercher. Ça vient chercher quelque chose en moi. Et qu'est-ce que ça vient chercher? Ben, ma valeur, mon identité, qui je suis. Mais tout ça, c'est plus ou moins inconscient. D'accord? Mais quand on le réalise, ben, on sait que c'est toujours comme ça. Et donc, on fait attention dans nos discussions. Quand ça commence à tourner au vinaigre, ben, on a ça en présence d'esprit. Pour pas se faire piéger. Parce que si on ne fait pas ça, ben, on va faire comme tout le monde. On va s'énerver, on va se mettre en colère, on va être déçu. Si c'est quelqu'un de proche, ça va nous blesser. On va murmurer ça pendant 3-4 heures. La nuit, peut-être qu'on va encore y penser. Le lendemain, on va se réveiller et on va encore y penser. Et on devient esclave. On devient esclave de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vous enseigne, c'est de rester libre. La vraie liberté qu'on a en Christ. Ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi, lui, il prépare le terrain. Il sait comment vous êtes. Donc, il envoie les pensées. Il a la capacité de mettre des pensées chez quelqu'un. Mais si la personne parle d'une chose où c'est encore compliqué pour vous, où toute votre enfance, vous avez entendu ça. Et puis là, paf, c'est réactivé. Il a un avantage sur vous juste à ce moment-là. Il prépare le terrain. C'est le piège de l'offense. Comme un piège à loup. Et on ouvre le piège, on cache bien toutes les branches, et puis vous arrivez, et qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas gaffe, vous tombez dans le piège. Paf! Et le piège, paf! Se referme. Et ça commence à se contaminer. L'offense commence à amener l'amertume. Et puis ça suinte dans votre âme. Et pourquoi? Seigneur, pourquoi elle a dit ça? Et Seigneur, mais pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour elle, voilà comment elle me parle. Voilà, mais c'est pas possible, Seigneur. Mais je comprends pas. Vous voyez, le piège est en marche. Il n'y a pas de pourquoi. Cherchez pas le pourquoi. On le connaît, le pourquoi. On le connaît. Profondément, c'est le péché. Alors peut-être que je vais vite, je fais un raccourci, mais à la base, c'est qu'il y a un dysfonctionnement et il y a des gens à qui vous avez rendu service, qui ont jusque-là été des amis, puis ils vous ont juré, amis jusqu'à la mort, et puis pour un oui, pour un non, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, la personne change d'attitude. Incompréhensible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, tu n'as rien fait de spécial. Il se passe quelque chose, mais tu ne vas peut-être pas avoir l'explication, c'est comme ça. Vous voyez? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que sinon, ben, c'est sûr qu'on n'arrête pas de se blesser, on se fâche, on se blesse, on a du mal à pardonner, la relation est compliquée. En fait, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie. On va aller un peu plus loin. On va continuer. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Faut vraiment comprendre que quand on vient à Christ, il y a notre vie d'avant et il y a la nouvelle vie. Il y a vraiment, à un moment là, il y a une coupure. Et le problème pour nous, c'est de rentrer dans cette nouvelle vie, mais de continuer à réfléchir, à penser, à agir, à parler avec des ingrédients qui viennent de l'ancienne vie. C'est ça la problématique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre conscience de tout ça. Qui on est maintenant? D'où vient ma valeur? Qui je suis? Je suis maintenant en Christ. C'est ma nouvelle identité. Et c'est ça qui doit me servir vraiment de base pour ne plus être victime de tout ce que j'ai connu dans mon ancienne vie. Est-ce que ça va, ça? Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas parti. Regardez avant. Ça, c'était nous avant. On l'a vu au départ quand on a fait l'introduction. Ta tête entière était malade et tout ton cœur était souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'était en bon état. Ce n'était que blessures, contusions et plaies vives qui n'avaient été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est ce que Isaïe dit quand il amène son épître. Le premier chapitre, c'est Isaïe, et c'est ça qu'il dit. Il dit, voilà l'état de l'être humain, voilà l'état de l'humanité. Et ça a déclenché en nous toutes sortes de mauvaises émotions, comme la peur, la honte, la culpabilité. On traînait ça comme un boulet dans notre vie. C'est la puissance du péché qui a amené la déchéance humaine. On a été créé parfaitement par le Seigneur, mais à la suite de la désobéissance, à la suite du péché, il y a une déchéance qui se fait. Et voici notre état d'esprit. Il est là. Nous sommes complètement malades. Et ceux que nous rencontrons, ceux qui ne sont pas encore en Christ, ceux qui sont encore malades, eh ben, c'est avec ceux-là qu'on a besoin d'avoir compassion, d'avoir miséricorde, parce qu'ils sont encore malades. Ils n'ont pas été guéris, pansés, bandés par l'huile du Saint-Esprit. Parce que cet état-là que nous avons connu, eh ben, il nous fait perdre notre sécurité. Ta vie n'avait plus de valeur et tu ne te sentais plus aimé. Les trois piliers qui t'amènent à avoir une sécurité en Christ. La sécurité, Christ pourvoit à tous nos besoins. C'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden avant le péché. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Christ pourvoyait à leurs besoins. Ils étaient en sécurité. Ils avaient de la valeur parce qu'ils étaient au plus haut de l'échelle de ce que Dieu avait créé. Et ben, c'était l'homme qui était au top du top. Il avait de la valeur. Et ils étaient aimés par Dieu. Donc, ils n'avaient pas de problème. Ils se posaient même pas la question de savoir s'ils étaient aimés ou pas. Ils ne se posaient même pas la question de leur valeur. C'était comme ça. Mais à la déchéance, eh ben, ils ont perdu tout ça. Et nous aussi, par ricochet, de génération en génération, ben, on n'avait plus ces choses-là. Après, tu ressentais un mal-être en toi. Les blessures ont fini par définir ton identité. À force de prendre des blessures, eh ben, tu as fini par définir toi-même l'identité que tu étais. Tu étais capable de faire le mal que tu ne voulais pas faire et le bien que tu voulais faire, mais tu ne le faisais pas. Voilà l'état de l'être humain. Mais la grâce de Dieu change tout. Elle change ton cœur qui devient amour à l'image de Christ. Tu fais la paix avec Dieu, tu fais la paix avec toi-même et tu vas faire la paix avec ton prochain. Il t'a redonné ta véritable identité. Quand tu fais la paix avec Dieu, tu retrouves ton identité. Tu retrouves l'appartenance, la valeur et l'amour. Et si vous voulez une illustration, quand Jésus nous explique la vision du Père pour nous, la relation du Père avec chacun d'entre nous, tu prends le fils prodigue. Qui était dans cet état-là? La tête était malade. Hein, il était dans le monde et il pensait que le monde allait lui apporter tout ce qu'il fallait. Mais quand il est chez les cochons, il n'y a plus rien qui va. Il est au fond du baril. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se lève, il comprend tout ça et il dit « Waouh, je vais revenir vers mon Père ». Et là, on a la nature du Père. On voit le Père et on voit ce qu'il nous redonne. Le Père, il voit son fils arriver au loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le fils qui ne méritait rien du tout. Au contraire, qui méritait une punition. Il s'est barré avec le fric du pater. Incroyable! Il a été faire la fête, il a piqué son fric et il a été faire la fête. Et là, le papa le voit et il l'accueille en courant. On voit la nature de Christ. Ce n'est pas ce que tu as fait qui compte, c'est ce que tu es. Et tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc, il lui montre son amour. Il lui montre son amour. Il lui montre, il lui dit, t'as rien perdu de ta valeur. Oui, le péché t'a abîmé. Oui, t'as été faire n'importe quoi dans le monde. C'est vrai, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Et il lui dit, apportez l'anneau. Mettez-lui la bague au doigt. Synonyme de valeur. Il avait l'anneau de la maison de son papa. Et puis, il lui a dit, il lui a pas dit comme ça, mais c'était le symbole. Il lui a dit, avec moi, tu ne manqueras de rien. Et pour ça, il a dit, tuez le veau gras. Tuez le veau gras. Le symbole que Dieu est un Dieu d'abondance et qu'il a prévu pour nous tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? En signe de pureté, que Dieu nous purifie de toutes les saletés de ce péché-là, apportez-lui la plus belle robe. Vous auriez dû faire un waouh. C'est tellement beau, hein? Et c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est en Christ. C'est incroyable ce qu'il fait en nous. Le péché nous a salis. Le péché a fait que, à travers des êtres humains, on a été blessés. On a été humiliés. On a subi toutes sortes de choses. Mais Dieu nous restaure. Merci pour les amen. Amen. Tu as démasqué, on l'a fait il y a 2 semaines, tu as démasqué la honte et tu l'as fait disparaître par le moyen de la confession. La honte te tenait parce que tout ce que le péché a fait dans ta vie était honteux. Mais c'est le péché qui t'a amené à faire tout ça. Et là, on a confessé parce qu'on ne veut plus le faire. Mais on ne veut plus que l'ennemi ait une emprise sur nous. On ne veut plus que l'ennemi dise « Moi, je te connais, moi, je sais ce que tu as fait. » Donc, je peux le ressortir à n'importe quel moment. Mais on l'a devancé. Il a dit « C'est fini. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Je l'ai confessé. » Et Dieu a pris ma honte à la croix. Et moi, j'ai confessé tout ça. Donc maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux aller le chanter sur les toits. Je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et c'est fini maintenant. Il n'a plus d'emprise sur toi. Et maintenant, dans cette prochaine étape qu'on va voir, tu vas te libérer de la culpabilité en reconnaissant ta responsabilité et en réparant tes torts. Oui, on a fait des choses et peut-être qu'on peut rectifier avec certaines personnes les torts qu'on a fait, de façon à ne plus se sentir coupable de l'effet du péché sur nous. On a fait des choses pas bien. C'est normal. Sinon, on ne serait pas des êtres humains. Mais maintenant, je ne veux plus que cette culpabilité vienne m'empêcher d'avoir cette vie que Dieu a pour moi. Le résultat, c'est que tu as un cœur qui est changé. Et ce cœur changé va produire le fruit du Saint-Esprit, l'amour et ses déclinaisons. C'est ça le résultat. Le résultat de ta vie, une fois que tu as fait tout le travail qu'il y avait à faire, c'est que maintenant tu es libre. Libre pour exprimer l'amour de Christ à toi. Il ne faut pas que tu sois dur avec toi. À toi, tu t'aimes comme tu es et surtout aux autres. Parce que les autres ne connaissent pas l'amour de Christ. N'oublie pas ce qu'on a vu tout à l'heure. La tête est malade, le cœur est complètement malade. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Et pour ça, il faut les aimer. Et pour ça, on verra tout à l'heure, il faut les aimer comme ils sont. Comme ils sont. Et ça ne nous plaît pas des fois, comment ils sont. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'ils sont, qui ne nous plaît pas, ne nous définit plus. N'a plus d'impact sur nous. Donc, on craint rien. Ils peuvent dire des choses sur nous. Mais ce n'est pas grave. Ça leur appartient. Mais ils n'ont plus de droit sur nous. Ils n'ont plus de droit. Le seul qui a le droit sur nous, c'est Christ. Les êtres humains n'ont pas de droit sur nous. On est libre. Il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus de paroles qui nous touchaient comme avant. C'est fini tout ça. On est une nouvelle créature. Christ a le droit et c'est lui qui nous définit. Et maintenant, c'est à toi de croire dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est à, À toi de croire ce que Dieu dit. Comme je l'ai dit cette semaine, c'est les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. C'est à toi de refuser quand l'ennemi va essayer par une porte, là, il voit qu'il y a peut-être encore une petite ouverture, il va essayer, tu vas dire non ! Au nom de Jésus, dégage, c'est fini. C'est fini, j'ai plus de culpabilité, j'ai plus de honte, j'ai plus rien de tout ça, je suis libre. Maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Amen. L'enjeu de cette huitième étape, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et consenti à réparer mes torts quand cela sera possible. Dans cette nouvelle étape, il est question de faire un bilan sur vos relations passées et présentes. C'est un premier pas absolument déterminant pour vous affranchir du passé et vous assurer un avenir serein. Ça coûte. Mais c'est encore un effort à faire dans cette restauration, dans la dernière étape. Ça coûte. Mais on ne peut pas être serein dans notre vie si on a des cadavres dans le placard. Donc, il va falloir faire un grand nettoyage, encore une fois. La maison n'est pas complètement propre. Il faut ouvrir les placards et regarder s'il n'y a pas quelques cadavres qui traînent. On va les nettoyer. Les relations humaines constituent un immense paradoxe. Elles répondent à notre besoin d'aimer et d'être aimé. Et en même temps, elles sont la source de nos maux les plus profonds. Compliqué, les relations humaines. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Si vous voyez un travail, à partir du moment où il y a des humains, ça devient compliqué. C'est pas compliqué. C'est comme ça la vie. Hein? Mais on ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre tous assis là-haut, dans une petite cabane là-haut, et puis voir personne, ça ne marche pas. Et c'est surtout qu'on en a besoin. On a besoin des relations. Parce qu'on a été fait comme ça. Dieu nous a fait pour aimer et être aimé. On a été fait à l'image de Dieu, et Dieu est amour. Donc on a besoin d'aimer et d'être aimé, et donc on ne peut pas se passer des êtres humains. Et en même temps, c'est là qu'on aura le plus mal. Ouh, voilà. Quand est-ce qu'on quitte la Terre? Je prends le prochain avion. C'est compliqué, les êtres humains. C'est compliqué, les relations humaines. Donc, il faut avoir conscience qu'on a besoin des uns des autres, on a besoin des relations, mais je dois comprendre comment fonctionnent les relations humaines pour ne pas me faire piéger, pour ne pas être sans arrêt blessé. Vivre les relations humaines sans être blessé. Waouh ! Eh bien, ça, c'est possible. Ça, c'est possible avec le Seigneur. Nous guérissons en faisant la paix dans nos relations. Cela implique d'identifier les tensions, les conflits, passés ou présents, engager un processus de pardon et, dans la mesure du possible, et si c'est souhaitable, se réconcilier. Donc, c'est une aparté qui est importante parce qu'il faut qu'on règle. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, mais il faut qu'on règle une chose. Il faut qu'on règle le problème des abus. D'accord ? Toute cette phrase-là, elle est bonne. D'accord ? Sauf dans un cas, les abus. D'accord ? On n'est pas appelé à fréquenter assidûment celui qui nous a abusés. Pourquoi ? Simple. Si vous comprenez tout ce que j'ai dit depuis le début, la personne qui abuse, elle est dysfonctionnelle, vous êtes d'accord avec moi. Elle a reçu un bug du péché et ça l'a touché dans un endroit bien précis. D'accord ? Ça peut être sexuel, ça peut être violent, ça peut être verbal, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais enfin bref, elle est touchée là-dedans. D'accord ? Quand vous voyez un adulte qui a des pulsions pour un bébé, excusez-moi, mais il y a un sacré bug. Je ne pense pas que Dieu nous a créés comme ça. Donc, vous voyez bien que le péché, il va dans tous les sens et surtout dans la sexualité. Combien d'abus, combien de femmes ont été abusées sur cette terre? Les statistiques, c'est un viol tous les 3 minutes. Donc, ça fait beaucoup de monde. D'accord? Donc, on voit bien qu'on est dans un monde complètement dysfonctionnel et où le péché, c'est une puissance de destruction. C'est pas quelque chose de moral, c'est pas quelque chose de gentil ou de méchant. Non, c'est une question de puissance. Et quand un homme est animé, et d'ailleurs, quand vous écoutez, il y a eu un procès ou quoi que ce soit, et que vous écoutez la personne, et elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un moment d'absence. J'étais plus moi. Oui. Mais c'est possible qu'à un moment, là, la puissance du péché, là, elle le prend, et puis c'est une pulsion qui est là, et la personne ne peut pas résister, ne peut rien faire, et ça va aller au bout. Donc, juste pour ça, quand c'est des abus de toutes sortes, évidemment, il va falloir prendre des précautions. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas guérie. Tant qu'elle n'est pas arrivée à Christ, qu'elle n'a pas fait une restauration profonde, elle restera avec son dysfonctionnement. Alors, peut-être qu'il ne se manifestera pas tous les jours, mais il y a un danger. Et donc, vous devez sauver votre peau. Donc, le processus du pardon peut être engagé, c'est souhaitable, parce qu'on comprend bien que c'est le péché qui est derrière tout ça. Mais pour autant, elle n'est pas excusable et on doit se protéger, parce qu'on n'a pas envie que ça recommence. Et on protégera nos enfants. On ne fera pas n'importe quoi avec nos enfants, parce que le risque est toujours là. Vous êtes d'accord avec ça ? Hein ? Donc, on engage le processus du pardon parce qu'on ne veut pas, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre le pardon. Hein ? Le pardon, c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous libérer de la personne. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on la garde prisonnière avec nous. Donc, on libère cette personne-là par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous rend capable de nous libérer de cette personne-là en lui pardonnant. Mais par contre, on n'est pas fou. On sait ce qu'elle a fait, on sait ce qu'elle est encore capable de faire à cause du péché. Donc, on fait attention. Donc, est-ce que c'est souhaitable d'avoir une relation à nouveau avec elle, on va dire, entre guillemets, normale ? Honnêtement, je ne pense pas. Là, OK, il faudra faire attention. Sans doute espacer les relations. Peut-être que dans certains cas, il n'y aura plus de relation, mais parce que c'est trop dangereux. En fait, après, c'est du cas par cas. Hein. Mais voilà un petit peu le cas que je veux nommer, parce que des fois, on pourrait comprendre qu'il faut se réconcilier absolument et avec tout le monde. C'est un peu plus subtil que ça. Ça va ? Non, répondez pas tous à la fois. Le but de cette étape, mettre à la lumière, ce que les autres ont pu vous faire, mais aussi les préjudices que vous leur avez causés. Lorsque nous racontons nos histoires, nous sommes la plupart du temps soit dans le rôle de victime, soit dans le rôle de héros. Réfléchissez un peu, quand les gens vous racontent une histoire, soit ils sont victimes, soit ils sont héros. Il y a une troisième voie qui n'est pas souvent utilisée. La victime, elle décrit tout le mal qu'elle a enduré et les injustices qu'elle a subies. Le héros retourne la situation à son avantage en racontant comment il a su s'en sortir et comment, malgré les difficultés, il s'en est bien sorti, le gars. Cependant, il existe une troisième version, rarement exprimée, qui est celle du fautif. C'est ma faute. C'est très rare quand quelqu'un vous raconte une histoire qui va commencer par dire « c'est ma faute ». C'est bon, c'est la faute de l'autre. Il est plus facile pour les êtres humains de voir ce que les autres leur ont fait que de voir ce que eux ont fait aux autres. C'est normal, vous inquiétez pas, tout le monde est pareil. Hein? Beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres, mais difficile de voir ce qui ne va pas chez nous. C'est bien ce que Jésus a enseigné dans le sermon de la montagne. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Tu arrives à voir la paille dans l'œil du voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Comment ça se fait? C'est une invitation à regarder à nos propres défauts et dysfonctionnements et à ne pas rendre toujours les autres responsables. Et là, j'ai rajouté encore, évidemment, en cas d'abus, je peux te dire que tu n'es pas responsable. Il faut l'entendre. En cas d'abus, tu n'es pas responsable. OK ? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On ne parle pas de ce cas-là. Ce cas-là, on le met à part. OK ? Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons des choses à corriger. Nous aurons du travail pour toute notre vie. C'est une bonne nouvelle. On a du boulot. On n'est pas au chômage. Non, il n'y a pas de chômage. Avec le Seigneur, il n'y a pas de chômage. On a du boulot jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'on va bien sûr corriger les choses, mais je veux dire que c'est notre communion avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit qui nous permet de corriger les choses et de ne plus être affectés par les conséquences du péché. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'on soit accroché à Dieu. Il faut qu'on soit greffé à Dieu, plus qu'accroché, greffé. C'est Jean 15 qui nous l'explique. C'est le cep et le sarment. On a été greffé dans cette nouvelle créature que nous sommes. On a été greffé à Dieu. Donc, c'est la vie de Dieu qui coule en nous. Ah, si vous avez un manguier et puis qu'il y a la branche du manguier, ben c'est forcément de la mangue qui coule dans sa sève. Ça ne va pas être un pommier. Il n'y a pas de pomme qui va sortir de là. Sinon, on a des dysfonctionnements encore plus graves que je pensais. Non, on reste sur quelque chose que nous, on est greffé à Christ et c'est la vie de Christ qui coule en nous. Amen. Et sans Christ, c'est ce qu'il dit dans Jean 15, hein, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes sous la puissance du péché. Et soyez pas orgueilleux, faites attention, croyez pas que maintenant, je suis restauré moi. Attention, on est toujours dépendant de Christ parce que le péché, il nous a fait du mal, il nous a touché dans certains domaines et ça reste des faiblesses. Mais Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je sais que je suis dans ma faiblesse, je fais appel à Christ et je deviens fort. Et je suis fort parce que c'est Christ qui fait que je ne tombe pas. Waouh ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les chrétiens, comment on a de la chance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De la même manière que nous devons faire preuve de patience avec nous-mêmes, nous sommes appelés à avoir de la patience, de la miséricorde. Ah ben, de la miséricorde. Alors, c'était de la compassion envers notre prochain. Et oui, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est que tout cela, on doit avoir de la miséricorde, la compassion pour l'autre, parce que, d'après vous, c'est quoi? C'est un pécheur. Comme moi. Et si on ne comprend pas ça, alors, on va partir sur un autre chemin, et vous savez ce qu'on va dire? On va dire, pourquoi? Eh oui, c'est aussi simple que ça. Soit vous prenez le chemin du pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a agi comme ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi? Vous avez des pourquoi dans les relations humaines. Pourquoi? Ça, c'est le chemin du pourquoi. Et vous avez l'autre chemin, simple. C'est un pécheur. Pas compliqué. On peut simplifier la vie. Et à partir de là, il nous faut de la miséricorde. Il nous faut de la compassion pour nous-mêmes aussi. Parce que là, on est fort parce qu'on voit l'erreur chez l'autre. Mais un de ces jours, c'est nous qui allons faire l'erreur. Et puis des fois, on ne le verra même pas. Et quand on va nous le dire, on va dire, oh, punaise, pardonne-moi. Ah ben oui, là, tu as besoin de miséricorde, tu as besoin de compassion. Ben oui. Ben fais-le aussi pour les autres. Parce que ça sera ton tour un jour. Sois pas que celui qui se croit fort fasse attention de ne pas tomber. Tu vois? Donc, aujourd'hui, tu vois la faute chez l'autre, sois rempli de miséricorde, sois rempli de compassion. Parce que demain, c'est peut-être toi qui vas fauter. Et tu voudras, je l'ai marqué, tu voudras que les autres fassent ce que toi, tu voudrais qu'on fasse pour toi. Tu voudras la même chose. Et c'est là qu'on utilise à chaque fois, tu vois, on relativise ce qui se passe, et c'est valable aussi pour les chrétiens, attention, hein, c'est pas que les inconvertis, hein, c'est valable aussi pour les chrétiens. Hein, parce qu'on n'est pas arrivé encore au top niveau. Hein. Des fois, on a des attentes incroyables. Vous avez entendu, et puis même, j'ose le dire, peut-être que vous l'avez dit aussi, les chrétiens, lui, converti depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il est converti? Et encore comme ça? Je m'exige en juge. Et encore comme ça, lui, après 15 ans de conversion? Seigneur, c'est pas possible. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ne pas juger, ni critiquer, essayer de mieux nous comprendre. Voilà des relations apaisées. Voilà les relations qu'on va pouvoir tisser dans notre famille, des relations qu'on va pouvoir tisser dans l'Église. Et là, on pourra dire qu'on est des artisans de paix. Pas facile. Je reviens à mon histoire du début. Pas facile, les relations. OK, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne peut pas être des artisans de paix. Et c'est dans la manière de comprendre les relations, c'est dans la manière de comprendre comment on réagit et qu'on décide de réagir, surtout, que la différence va se faire. Il nous faut débrancher le pilote automatique de notre ancienne vie et prendre la vie de Christ et voir comment il réagissait et faire comme lui. Et c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette étape, il nous faut faire preuve d'honnêteté, ne pas rentrer dans le déni. Nous faisons tous des erreurs et bien souvent les torts sont partagés, mais bien souvent aussi, nous avons de la difficulté à le reconnaître. Prenez un couple qui divorce, vous écoutez une version, l'autre c'est une catastrophe. Vous écoutez après l'autre, la version, ah ben l'autre c'est une catastrophe. Mais ils n'ont pas vécu ensemble. Si, seulement on voit ce qui se passe chez l'autre. On a du mal à voir ce qui se passe chez nous. Un des signes de la guérison de notre être intérieur sera de reconnaître plus facilement nos torts. Une marche nouvelle dans l'humilité versus l'orgueil. Mais pour ça, je reviens à ce que j'ai dit au début, il nous faut être sécure. C'est la clé. Si vous savez qui vous êtes, que vous avez de la valeur, que vous êtes une merveilleuse créature, parce que Dieu l'a dit, si c'est ça votre préambule, alors vous pouvez reconnaître vos torts facilement. Eh oui, parce qu'on n'est pas parfait. Mais le fait de reconnaître mes torts enlève rien à qui je suis. Je suis toujours un enfant de Dieu. Je suis toujours aimé par Dieu. J'ai toujours de la valeur. Mais je peux reconnaître que j'ai tort. Oui, j'ai tort. Pas de problème. Alléluia, je dois m'améliorer, je dois changer. Oui, chérie, elle n'est pas là ce soir, je peux en profiter. Oui, chérie, je dois m'améliorer, je suis d'accord. Mais je le fais cool, parce que ce n'est pas un problème. Et puis je dirais même que c'est normal. On verra tout à l'heure la susceptibilité. On va voir que la personne, justement, qui n'est pas sécure, elle est susceptible. Parce qu'elle n'est pas sécure. Parce que si on lui fait un reproche, ça vient diminuer tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a en elle? Sa valeur? Qui elle est? Non mais t'es qui, toi, pour me faire des reproches? Elle est susceptible. Elle n'est pas sécure. J'anticipe un peu, mais la susceptibilité, c'est un poison pour la paix. C'est un gros poison pour la paix. Tu sais même plus comment parler à la personne, d'abord. Tu voudrais qu'elle reconnaisse, mais là, t'as peut-être fait une petite erreur, là. Quoi ? Moi, faire une erreur, là ? Les deux obstacles principaux pour dresser cette liste, le déni et la culpabilité. Dresser cette liste, envisager de réparer les torts causés, aura pour conséquence de nous libérer de la culpabilité. Mais on va voir qu'il faut qu'on fasse attention, on a des obstacles face à ça. Nous nous sommes libérés de la honte en confessant nos blessures. Maintenant, nous allons nous libérer de la culpabilité en reconnaissant notre part de responsabilité dans les conflits découlant de nos relations les uns avec les autres en demandant pardon. Alors, comment entreprendre cette liste? Par où on doit commencer? Alors, à la fin, vous le trouverez sur le site. J'en ai imprimé quelques-unes. Je vais vous mettre ce tableau-là. Hein, qui va vous aider à dresser une liste de ce que les autres vous ont fait et puis une liste de ce que vous avez fait aux autres. OK ? Alors, qui avons-nous blessé ? Nos parents, nos enfants, notre épouse, notre mari, d'autres membres de la famille, nos amis proches, des personnes avec qui nous avions travaillé, des membres de l'Église ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Se sont-ils sentis trahis? Est-ce que nos enfants ont développé des insécurités par nos négligences? Nos parents ont-ils été accablés par nos frasques? Avons-nous fait du tort à notre épouse, à notre conjoint? Quelle est ma part de responsabilité dans ces différents conflits? Et pour être efficace, je vous propose donc de dresser deux listes. Première liste, les personnes qui vous ont blessé. Cela peut paraître contradictoire puisque ce n'est pas ce que l'étape mentionne. Mais il y a une raison à cela. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous ne vous en êtes pas inquiété, il y a de fortes chances que vous soyez rempli de ressentiment et d'amertume envers cette personne-là. Quelquefois, au fil des années, au fil de notre vie, on a mis beaucoup de choses sous le tapis. Mais on a toujours du ressentiment avec ces personnes-là. Et la vraie liberté, ce qu'a dit Jésus au début avec le docteur de la loi, si tu veux t'emparer des promesses du royaume, si tu veux être heureux sur cette terre, il faut que tu sois bien dans tes relations humaines. Il faut régler les relations humaines. C'est la base. C'est ce qu'on fait. On fait le grand nettoyage. Il faut tout revoir. Après, une fois que le grand nettoyage est fait et qu'on a appris à maîtriser les codes spirituels des relations humaines, alors on aura juste un petit coup de torchon à mettre de temps en temps. Pas méchant. Et on apprendra à être heureux dans nos relations les uns avec les autres parce qu'on ira à l'essentiel et on aura su mettre de côté le secondaire. Ça, c'est secondaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et on va garder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. Si vous comprenez ça, votre vie, elle change. Je vous le dis. C'est pas toujours facile à capter, mais si vous comprenez que l'essentiel, c'est de mettre en avant l'amour, et des fois, savoir fermer sa bouche pour que l'amour triomphe, des fois, savoir s'écraser pour que l'amour triomphe, parce que c'est secondaire. On débranche notre pilote automatique de l'ancienne vie. Vous savez, cette ancienne vie où on voulait toujours avoir raison, où on veut toujours avoir le dernier mot, où on se bat pour des broutilles. Non, ça ne sert à rien. Si la personne en face, elle veut avoir le dernier mot. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand vous terminez la phrase, il faut qu'ils reprennent encore une dernière fois parce que c'est eux qui doivent finir. Mais écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas essentiel, ça. C'est secondaire, tu vois. Et moi, je comprends qu'elle a un petit problème. Je ne veux pas lui dire. Elle va se fâcher deux fois plus. Mais je comprends que, bon, la pauvre, pour elle, c'est important de finir, quoi. Tu vois, va, finalement, tu as dit ça tout à l'heure, mais tu vois, c'est pas encore tout à fait ça. C'est plus ça. Ah oui, mais peut-être, si tu veux, ouais. Peut-être plus ça, ça. Comment on voit ça? Pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Mais bon, elle va avoir raison. Elle va avoir raison, c'est pas grave. Compassion et miséricorde. Alléluia. À la longue, le ressentiment et l'amertume deviennent comme un feu qui vous ronge de l'intérieur et qui finit par embraser vos relations. Cette première liste contient donc les germes du rétablissement de vos relations. L'objectif ultime sera de pardonner et d'être ainsi libéré de chaque personne qui vous a blessé. Pour élaborer cette liste, utilisez une feuille ou un cahier de bord, ou le cahier de bord que vous avez peut-être depuis le début. Dressez-la à partir des 5 aspects suivants. Le nom de la personne, la nature de votre relation, décrivez l'offense subie, l'effet que cela a eu sur vous, quelle a été votre réaction par la suite. On prend chaque cas que le Saint-Esprit nous met devant nous de relations qui ne sont pas réglées, de relations qui ont été compliquées, qui ont été difficiles et qui ont laissé des traces dans ma vie. On va nettoyer tout ça. Au cours de la rédaction de cette liste, certaines émotions remonteront immanquablement à la surface. La douleur, la honte, la culpabilité et assurément la colère. Ne les repoussez pas, ne les réprimez pas, exprimez-les. Deuxième liste, les personnes que vous avez blessées. Pour cette seconde liste, vous allez procéder de la même manière que lors de la rédaction de la liste précédente. En considérant les personnes que vous avez offensées, vous commencerez à découvrir que vos réactions, vos comportements, votre mode de fonctionnement les ont sans doute affectées, sans aucun doute. Le conseil, ne soyez pas sur la défensive et ne tentez pas de vous justifier en pensant qu'après tout, c'est leur faute. Tant pis pour eux. Voyez plutôt votre part de responsabilité dans la manière que ce conflit a pris place. Vous allez mieux vous connaître avec le recul, avec l'expérience que vous avez maintenant. Ben vous allez voir les lacunes apparaître à cette époque-là, à ce moment-là. Là où vous étiez fragile, là où vous dites « Seigneur, il y a peut-être encore des choses à guérir à ce niveau-là. » Il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas le plus facile à faire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est les conditions pour repartir sur une page blanche avec le Seigneur, la nouvelle vie, de dire maintenant, voilà, je n'ai plus d'ennemis sur cette terre. Maintenant, je n'ai plus besoin de changer de trottoir. Maintenant, dans l'église, je n'ai plus besoin de changer de travée. Oh. Non, libre. Libre. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ils ne nous aiment pas et tant pis. Mais on est libre. D'accord ? Et cette personne-là qui ne m'aime pas, moi je l'aime. Ben oui, moi je l'aime. C'est ce que Dieu m'a demandé. Moi je l'aime. Elle ne m'aime pas. Ben tant pis pour elle. C'est dommage. Pour elle. Et moi je l'aime. Pas de problème. Et ça a un effet extraordinaire. C'est que le jour où elle vient vous voir, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une sœur qui, il n'y a pas longtemps, des fois, on est surpris. On ne sait pas qu'il y a des gens qui ont des mauvaises pensées sur vous, dis donc. Mais elle est venue me voir et elle m'a dit, mon frère, je peux te parler? Mais j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Ben, je viens de te demander pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées contre toi, tu sais. Ah, je ne t'aimais pas, hein? Je dis, ah bon? Mais moi, je l'aimais bien, moi. J'aime tout le monde. J'ai dit, mais ma sœur, viens dans mes bras. Mais oui, parce que j'ai rien, j'ai pas de ressentiment, j'ai pas de ressenti contre elle. Mais je l'ai pris dans mes bras. Et je lui dis, viens, fais un câlin. Pas de problème. Et maintenant, quand elle me voit, elle est super heureuse de vous. Je suis sûr qu'elle m'aime maintenant. Mais c'est bon, c'est excellent. Vos réactions ont pu jouer un rôle majeur dans la détérioration de la vie des personnes que vous avez blessées. Voici quelques exemples. Peut-être que des problèmes financiers continuent. Une façon irresponsable de vivre et de gérer vos biens ont causé des difficultés à votre famille. Votre susceptibilité et vos réactions impulsives ont affecté et intimidé votre entourage. À la place d'assumer votre propre responsabilité devant certaines déconvenues, vous avez blâmé, critiqué les autres en leur faisant laisser croire que c'était eux les coupables. Les problèmes sexuels, adultères, pornographie, etc. ont nui à la qualité de votre mariage et ont profondément blessé votre partenaire. Votre peur d'être abandonné vous a amené à développer diverses stratégies de contrôle des autres, bien souvent motivées par une jalousie excessive et une insécurité maladive. Et là, je reviens sur la susceptibilité. Votre susceptibilité vous a amené à avoir des comportements déplacés, des paroles non appropriées, avec un ton agressif, mettant les autres dans une position inconfortable. C'est vraiment un poison dans les relations humaines, la susceptibilité. Les gens qui sont susceptibles, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Et à chaque fois qu'ils voient un reproche, une critique, eh ben, ça, c'est comme si ils subissaient une attaque. Et on est obligé de dire, non, excuse-moi, non, j'ai pas voulu dire ça. Non, t'as pas compris. Non, j'ai pas voulu aller. Non. On est mal à l'aise. Ça met un malaise dans la relation parce que la personne, elle voit les attaques là où il n'y en a pas. Elle doit avoir des lunettes spéciales. Toi, t'as pas le moyen de la changer. C'est compliqué, je viens de le dire, c'est compliqué ces relations-là. Parce qu'en réalité, elle, mais là je parle surtout, alors je vais revenir à ta question, mais nous je parle surtout pour que nous on réalise que si on est susceptible, on a encore un problème d'estime de soi, on a encore un problème de confiance en soi. D'accord ? C'est surtout ça qu'il faut prendre conscience. Parce qu'on n'a pas à être susceptible à partir du moment où on appartient à Christ et que Christ nous a donné cette valeur-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce fondement-là. On a pu être susceptible. Quelqu'un te fait un reproche, et puis c'est quoi le problème, tu vois? Mais ces gens-là, ils sont malades. Ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes et de confiance en soi. C'est maladif, tu vois? Et donc, c'est un filtre ça là, le manque de confiance en soi et la mauvaise estime de soi, la mauvaise image qu'on a de soi, eh bien, ça agit comme un filtre. Donc, quand tu dis quelque chose, ça passe par le filtre. Tu vois ? Et toi, tu disais quelque chose. Alors, des fois, ce n'est même pas un reproche. Tu te rends compte ? Ce n'est même pas un reproche. C'est, je te dis une blague. Oh, mais dis donc, t'as fait beaucoup à manger ce midi, hein, tu vois ? Mais c'était pour la remercier, elle a fait beaucoup à manger. Ah ben voilà, j'ai encore fait trop à manger. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, t'as fait, c'était bien, c'était très, très, très bien, ce midi. Et oui, parce que tout est filtré, et c'est filtré négativement, tu vois, et donc ça se transforme en reproche. Je dis pas quand tu vis dans le couple avec un mec susceptible ou une femme susceptible, mais c'est compliqué la vie, tu vois, sur les œufs. Pas sur les œufs. Oui, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, parce que tout s'est mal interprété. Il y a des fois, tu peux même plus parler, parce que t'es coincé. Tu le dis comme ça, t'es foutu. Tu le dis comme ça, t'es foutu. Donc tu dis plus rien. Et c'est à ce moment-là que la personne te dit, ben tu dis pas, tu dis, qu'est-ce que tu penses ? Je suis foutu. Je le dis comme ça, je suis mort. Je le dis comme ça, je suis mort. C'est compliqué. Tu dis, non, tu vas bien. Enfin, finalement, tout va bien. Non, mais c'est terrible la susceptibilité. J'espère qu'il n'y a pas de susceptible ici. En tout cas, si vous êtes susceptible, réfléchissez, travaillez sur vous. Vous n'avez pas à être susceptible. Les reproches, c'est normal. Les critiques, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et ça ne définit pas qui vous êtes. Apprenez à prendre ça bien en disant, ben oui, et puis des fois, c'est vrai, des fois, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas réglé. Et puis, quelquefois, c'est juste exagérer les attentes de la personne. Elle vous fait un reproche. Et quand vous analysez le reproche, c'est simplement qu'elle est carencée dans un domaine et elle attend de vous des attentes qui ne peuvent venir que de Dieu. Il faudrait qu'on soit un surhomme ou une surfemme pour répondre à ces attentes-là. Compliqué. Non, je vous dis que les relations humaines sont compliquées. Ce n'est pas pour rien. Et là, malheureusement, ben, il faut être sécure. Vous voyez ? Parce que, franchement, il faut comprendre que la personne, elle est encore prisonnière de ça. C'est pas terrible, c'est comme une maladie, en fait. Hein. C'est pas terrible comme maladie. Hein. La personne est encore prisonnière de ça. Elle a besoin qu'on l'encourage. Elle a besoin qu'on lui rappelle que, mais oui, tu es quelqu'un de bien. Eh oui, tu es ci. Eh oui, tu es ça. Elle a besoin. Alors, des fois, c'est énervant, parce qu'on répète ça tout le temps. Mais, ah ben, c'est très épuisant, surtout si la personne vit avec toi. Alors, ben là, je peux te dire que c'est très épuisant. Dans la Bible, c'est Jérémie qui parle des citernes crevassées. Tu vois, c'est les citernes crevassées, c'est que tu remplis émotionnellement le truc, tu vois, mais manque de peau, il n'y a pas de fond. Donc, tu remplis. Mais c'est comme ça. Tu vois, tu amènes une émotion positive qui va servir pour quelques instants. Parce que dans une heure, il faudra que tu recommences, s'il y a besoin. Donc, c'est assez épuisant. Mais après, ben, écoute, on a tous des tares, on a tous des problèmes à régler. Tu vois, mais en tout cas, pour les autres, tu ne peux rien faire. Mais si toi, tu es susceptible, ben, il faut que tu, avec l'enseignement que tu reçois, il faut que tu dises, ben, Seigneur, je dois corriger ma susceptibilité et ne pas voir des attaques partout, alors que c'est juste une manière de parler. C'est juste, des fois, un petit reproche. Ben oui, on n'est pas encore arrivé à la stature de Christ, hein. Donc, c'est juste normal. C'est juste normal. Bon, ça a éclairé des gens ici. Il n'y a pas de susceptible ici. Rappelez-vous ceci. Il y a un travail en profondeur à faire parce qu'il est plus difficile d'identifier les personnes à qui nous avons fait du tort que l'inverse. Plus facile de voir ce que les autres nous ont fait que ce que nous avons fait aux autres. L'important est de se concentrer sur l'élaboration d'une liste détaillée de ceux à qui vous avez fait du tort. Au moment où vous vous préparez à la rédiger, ayez de la compassion pour vous-même. Nous sommes tous imparfaits et reconnaître nos erreurs sans culpabilité morbide nous aidera à nous accepter et à accepter les autres. OK ? Ça rejoint un petit peu la susceptibilité. Dans un autre domaine, c'est normal qu'on ait fait des erreurs. Et ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs que nous sommes une erreur. Retenez ça quand vous y penserez. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis une erreur. Okay? J'ai fait des erreurs parce que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Donc, pas de culpabilité morbide. Pas d'auto-flagellation. Pas de martinet. Mauvais, mauvaise. Oh, t'es mauvais, oh, t'es mauvais. Non, on fait ça tranquillement dans la paix. Bien que vous puissiez vous sentir honteux et coupable, ne laissez pas ces émotions vous submerger maladivement. Prenez le temps de prier avant et demandez à Dieu de vous diriger. On est là pour régler les problèmes qu'on n'a jamais réglés, pour regarder à notre vie, à ce qu'on a pu faire comme mal, et parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en finir avec tout ça et de partir sur une nouvelle base. Et on ne veut plus de culpabilité. Et on ne veut plus que l'ennemi ait une emprise sur nous. On ne veut plus qu'il nous rappelle des fois des choses qu'on a fait pour nous diminuer, pour encore avoir qu'on soit dans la peur, que ça soit découvert, ou pour avoir honte de nous. Enfin, pour ramener des émotions à la surface qui vont en fait nous rendre tristes et malheureux. Pour vous aider, pensez en particulier aux personnes que vous évitez ou que vous craignez de rencontrer. Cela constitue un indice probant que vous avez quelque chose qui n'est pas réglé avec elles. Prenez tout le temps nécessaire pour bien identifier les paroles blessantes que vous auriez pu prononcer ou les réactions offensantes que vous auriez eues. Au fil des années, il se peut que vous vous soyez endurci. Il est facile d'être animé d'une sourde colère qui pousse à une subtile vengeance. Le cœur agit parfois comme une éponge, absorbant les frustrations, accumulant les déceptions et peu à peu perdant sa capacité de ressentir des sentiments nobles. Quelquefois, à avoir été dans ce domaine-là, dans cette méchanceté-là, ou d'avoir blessé et tout ça, eh ben, en même temps qu'on recevait les coups, on a donné les coups et ça a pu endurcir notre cœur. La difficulté, c'est à nouveau laisser la place à Dieu d'agir pour qu'il transforme notre cœur et qu'il rend, comme il le dit, un cœur tendre pour pouvoir aimer et être aimé. Donc on a besoin de prendre conscience de tout ça, mais c'est dans le but de dire « ça, c'était mon ancienne vie, je veux régler tout ça parce que je ne veux plus que ça vienne me hanter ». C'est un travail qui va se poursuivre au-delà de cette semaine qui arrive. Ce travail peut continuer sur plusieurs jours, voire quelquefois sur plusieurs semaines, et parfois même sur plusieurs mois, selon l'ampleur des dommages. Le but est de nettoyer votre cœur de toute cette culpabilité morbide, afin que le diable n'ait plus d'emprise sur vous et que vous vous sentiez libre et sécure. Plus de honte, plus de culpabilité, plus de peur, c'est le chemin de la liberté. Ce ne sont pas les erreurs d'une personne qui la définissent, mais sa capacité à réparer les torts causés. Consentir à faire amende honorable, c'est la huitième étape. Nous avons consenti à faire amende honorable. L'expression implique une reconnaissance de sa faute, une confession à la personne lésée, une demande de pardon et un engagement à réparer, et je répète, dans la mesure du possible. Déjà, la sixième étape, on avait abordé la question du consentement. Cette étape-ci s'inscrit dans la même logique. Vous n'êtes donc nullement obligé ni contraint. Il y a cette notion de consentement. Tout ce qu'on fait, personne ne nous oblige à le faire. On le fait pour répondre à l'appel de Christ. Mais le consentement à faire amende honorable, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est une suite logique. Après avoir fait la paix avec Dieu, d'avoir fait alliance avec Dieu, d'avoir donné notre vie à Dieu, on a fait un travail sur nous-mêmes extraordinaire. On a fait un travail de restauration sur nous-mêmes. Et maintenant que nous sommes dans cette voie de restauration, nous allons pouvoir vivre dans cette nouveauté de vie et donc agir différemment avec les autres. Restaurer avec les autres les relations, si c'est possible, si c'est souhaitable. Dans beaucoup de cas, c'est souhaitable. Et dans d'autres cas, ce n'est pas souhaitable. Cela signifie que vous voulez, désirez ardemment effectuer les correctifs qui s'imposent et réparer ce qui a été brisé dans la mesure du possible. Par exemple, dans les familles. Hein, j'étais ce matin en discussion avec Odile, par exemple, qui est venue deux, trois fois, elle est repartie en métropole, Odile, mais elle m'expliquait que c'est incroyable dans les familles, comment les familles sont déchirées. Mais quand on regarde pourquoi, on tombe des nues, c'est des broutilles. Mais alors, il y a deux sœurs et un frère. Et c'est un triangle. Mais la sœur qui est là est fâchée avec la sœur qui est là, fâchée avec le frère qui est là. Le frère qui est là est fâché avec la sœur qui est là, la sœur qui est là. La sœur qui est là est fâchée avec le frère qui est là. En fait, ils sont tous fâchés. Et quand je dis, mais explique-moi ce qui s'est passé. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Juste une que pour vous dire, incroyable. Alors souvent, on sait que dans les familles, le gros problème, c'est les héritages. Hein? Dès qu'il s'agit de monnaie, 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 là, ça devient tout de suite plus compliqué. D'accord ? Donc là, il y a une sœur donc qui a aidé ses parents jusqu'à la fin, qui s'en est occupée, qui s'est soignée, qui les a soignés, et elle voulait garder le mobilier de la maison. Mobilier, la vaisselle, tout ça. Bon, tu vois. Quand tu as déjà de la vaisselle, je pense que tu vas faire avec une double vaisselle. Bon, elle voulait garder la vaisselle. Et puis, elle voulait que ça soit clair. Alors, regardez bien. On est à Noël. Repas de famille, tu vois. Tout le monde est là. Pour l'instant, tout va bien. On mange la dinde, on rigole bien, tout va bien. Tout d'un coup, la sœur dit « Ah, Jean-Louis, il faut qu'on règle le problème de la vaisselle de maman et du mobilier. » Le gars qui lui a fait à manger, il pense à sa bouffe, à tout ça, il est là-dedans, lui, tu vois. Il fait « Ah, écoute, on parlera de ça demain. Okay » Donc, il repart dans sa cuisine, il va chercher la bouffe. Et elle dit « Non, il faut le régler ce soir. » Quelle erreur, quelle erreur. Deux fois. Il dit rien. À chercher, hop, ramène ta bouffe. On en parle, Jean-Louis. Le gars, ça va faire plus. Alors, le mec, c'est Obélix. Vous voyez Obélix, là, l'image? C'est Obélix. Le mec, il a pris le plat. Il l'a balancé sur la table. Tu me fais chier avec tes conneries. Dégage de là. Oh, la soirée de Noël. Elle a été abrégée. Et voilà. Et ils sont fâchés. Et ça fait 15 ans. Incroyable. Eh, c'est fou hein, quand on y pense. Et donc là, elle m'explique ça et tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Et à chaque fois, tu expliques, mais avec celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu te dis, mais incroyable. Et les familles se fâchent pour des conneries. Incroyable. C'est fou, hein? Incroyable comment l'ennemi arrive à briser les familles comme ça pour des bêtises. Bien sûr, la façon la plus facile consiste à balayer et à tout mettre sous le tapis, d'oublier et de passer à autre chose en se disant que les gens ne se rappellent probablement plus des offenses subies. Lorsque vous réfléchissez ainsi, vous vous défilez encore une fois et vous évitez d'affronter les réactions potentielles des gens qui vous ont lésé. Parce que le problème, hein, que vous avez lésé. Parce que le problème, c'est que quelque part, quand on écoute tout ça, ben, y a la peur qui arrive. La peur de la réaction de l'autre. Et comment il va réagir? Je vais me faire embarrer. Y a la peur. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on confronte. C'est la peur. Oui. Alors, on verra que si ce n'est pas possible physiquement, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de fil, ça peut être on ne sait pas quoi. Mais l'important, c'est de le faire. Mon premier mariage, le divorce, ça s'est un peu mal passé, hein, parce que je n'étais pas chrétien et je ne connaissais pas tout ce que j'enseigne ce soir. Et en fait, bon, ma femme est partie avec un mec et moi, je suis resté avec les trois enfants. D'accord ? Donc là, il y a le tableau idyllique pour dire, regarde, c'est ma femme, ça est parti avec un mec, je suis resté avec les trois enfants. Pleurez, sortez les mouchoirs. Ah oui, faut quand même venir de mon côté quand même un petit peu. Donc ça a été la stratégie pendant longtemps. Ça a créé de la haine, évidemment, parce que je la décriais. Hein. T'as gardé les enfants? Oui, j'ai gardé les enfants, les trois enfants. J'ai gardé trois enfants. Oh, mon pauvre. Oh, oui. Tu sais, des fois, tu fais le caliméro, tu sais ça. Tu as l'impression que ça fait du bien. Et quand je suis venu à Dieu, assez rapidement, hein, dans les deux, trois premiers mois, un dimanche matin, et on est en prière, j'ai une pensée qui arrive, c'est le Saint-Esprit qui me parle, qui me dit, il va falloir que tu t'excuses avec ta femme. J'ai du mal à entendre. Je vais en prière, je prie. La femme, tu t'excuses avec ta femme. Je dis, non, Seigneur, de quoi? Mais elle est partie avec un mec et tout ça. Et là, le Seigneur me remonte tout ce que moi, j'ai loupé. Toutes les carences que j'ai eues avec cette femme-là. J'étais tout le temps au travail, j'étais jamais là, j'étais pas un gars tendre, j'étais pas un gars qui écoutait, j'étais tout le temps caché derrière le travail. Et elle, elle avait toujours un mari absent à la maison. Enfin, ça excuse pas tout, hein. Mais Dieu était en train de me montrer que j'étais pas si blanc-blanc que ça. Eh ben, je l'ai fait. Je peux vous dire que ça m'a coûté. Oh la vache. Alors, j'ai pris une feuille. Oh, je me rappelle, j'ai pris une feuille. Puis j'ai dit, je reconnais que j'ai eu quelques temps. Mais bref, finalement, ça m'a soulagé tout ça. Et elle, quand elle a reçu la lettre, elle a appelé ma fille, elle était avec ma fille, elle a dit, je crois que ton père a dû fumer un peu de Zamal. Parce que c'est bizarre ce qui se passe. Et ma mère aussi, que j'avais reçu aussi d'appeler ma mère. Et là, ça a été un moment assez émouvant. Parce que j'avais toujours considéré que ma mère, elle ne s'était jamais occupée de moi et qu'elle s'était livrée à moi-même et tout ça. Et là, en fait, le Seigneur m'a montré qu'elle m'a élevé avec les moyens qu'elle avait, avec la compréhension qu'elle avait de l'époque. Et qu'elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle n'avait pas reçu. Quelle révélation! Et bien, vous savez, ça s'est fait au téléphone. Et ma mère, comment vous expliquer ça? Ma mère, c'était une femme maîtresse. Vous voyez, le gros tempérament, quoi, hein. Elle avait un hôtel-restaurant, et c'était un hôtel-restaurant Les Routiers. Vous voyez, les routiers sont sympas. Ouais, ils sont sympas, mais vous voyez, c'est des gros bonhommes. Et elle était toute seule à gérer ces bonhommes-là. Donc, vous voyez la femme de caractère que c'était, quoi. Et j'avais jamais vu ma mère pleurer. Jamais entendu ma mère pleurer. Et là, au téléphone, je fais ce que j'ai reçu de Dieu. Et je lui dis, tu sais, maman, tu as été une mère formidable. Tu m'as donné tout ce que tu as pu me donner. Et c'est vrai. Et je te remercie pour ça. Et je crois que je lui ai enlevé un poids extraordinaire. Et au téléphone, j'ai eu des pleurs. Ma mère qui pleure. Oh là là, le choc. Choc thermique. Incroyable. Et je crois qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Je crois que justement, elle culpabilisait. Parce que vous savez, ces gens-là, ils ont, en très peu de temps, ils ont vu les générations évoluer et comment on s'occupe des gamins. Et je pense qu'elle a dit, eh ben moi, je crois que j'ai dû rater quelque chose. Et quand je lui ai dit ça, j'ai l'impression que il y a un poids qui est enlevé, et moi, ça m'a fait du bien. Vous voyez ? Comme quoi, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, je vous invite à obéir. Ça fait du bien. Regardons un instant l'histoire de Zachée. Il a saisi l'opportunité d'une autre vie. Sa réaction spontanée et son désir de réparer nous démontrent qu'il a pris conscience de ses torts. L'histoire de Zachée, c'est aussi un peu celle de nos vies. Nous aussi, nous avons une histoire enfouie à l'intérieur de nous. C'est en elle que réside l'explication de nos conduites, de nos réactions. Cette étape nous montre que nous pouvons transformer notre passé en réglant les choses de manière définitive. Le concept de repentance, si indispensable dans la vie de disciple, est très exigeant. Il nous amène à prendre notre part de responsabilité dans nos histoires. Mais surtout, il nous incite à porter du fruit digne de cette repentance. Cela veut dire une vie renouvelée, où les gestes du passé sont corrigés au fur et à mesure de notre marche chrétienne, et où il y a réparation pour ceux que nous avons lésés. En résumé, en conclusion, lorsque nous commençons notre cheminement au travers de ces étapes, nous ne voyons que le mal que les autres nous ont fait. Mais au fur et à mesure que nous progressons, nous nous rendons compte que nous avons joué un rôle dans le déroulement de nos relations. Ainsi, lorsque nous cessons de nous considérer comme une victime, nous découvrons que nos relations sont le reflet de nos problèmes non résolus, de nos peurs et parfois de nos croyances erronées. Enfin, lorsque nous découvrons que nous faisons des victimes par notre tendance à blâmer, critiquer, à juger, nous comprenons davantage ceux qui nous ont blessés, peut-être sans le savoir. À ce moment-là, nous cessons de lutter avec les autres et avec nous-mêmes, car nous quittons les rôles qui nous ont enfermés, sclérosés, paralysés et même endurcis. Nous choisissons de guérir et de grandir. Nous apprenons à mieux nous connaître et surtout à nous pardonner et à pardonner aux autres. C'est ainsi que nous réapprenons à aimer et à aimer de l'amour de Dieu. Aimer de l'amour de Dieu signifie que nous ne voulons plus avoir de mauvais sentiments, de mauvaises pensées envers telle ou telle personne. Nous voulons avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Cet amour qui nous permet de pardonner, de libérer nos cœurs, n'est pas à confondre avec l'amour humain filaire. Ce n'est pas un amour qui rentre dans le registre des affinités. C'est un amour, agapé, qui provient d'une victoire sur nous-mêmes et qui s'obtient dans une relation intime avec le Seigneur et qui permet à son amour d'être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cette vérité biblique est pleine de sagesse, car elle nous permet de nous libérer sans compromettre notre santé mentale, physique, spirituelle. En particulier lorsque les blessures proviennent de personnes présentant des troubles mentaux sévères ou des dysfonctionnements relevant d'abus divers. À cette étape-ci, vous n'agissez pas encore, mais vous êtes en préparation pour la prochaine étape. Concentrez-vous sur les listes à établir et résistez à l'idée de comment vous allez faire pour affronter certaines personnes. Laissez le temps à Dieu de vous préparer. Pour l'instant, faites juste des listes des gens qui vous ont blessé avec toutes les cases à remplir et les gens que vous avez blessés. Pour l'instant, faites confiance à Dieu. Allez pas trop vite en besogne. Chaque chose en son temps. À chaque jour suffit sa peine. Chacune des étapes constitue le maillon d'une grande chaîne menant à la restauration et à l'épanouissement de notre vie. Vous êtes en train de reconstruire un maillon après l'autre, votre vie. Le défi, c'est de rédiger la liste et le mot-clé « identifier ». Identifier les personnes qui ont croisé votre chemin et avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Maintenant, retenez bien tout ça. Ok. Mettez à part les abus. Ok. Les abus, vous n'êtes pas coupable. Donc, ne mettez pas les abus dans la même case que les autres. Hein, tous ceux qui ont été abusés d'une manière ou d'une autre, celui qui vous a abusé, il vous a abusé, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. C'est important de ne pas tout mélanger. Amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour le travail qui nous permet de faire dans nos vies et le travail qui nous permet de cette restauration de nos vies pour l'avenir. Et pensez à toutes les belles années qui vous attendent en étant dans cette liberté, en ayant compris comment fonctionnent les relations humaines et changer de conception, concevoir les relations humaines autrement et ne pas se mettre à la hauteur des gens dans le sens que s'ils s'énervent, ils s'énervent. S'ils disent des mauvaises choses, ils disent des mauvaises choses. Mais vous, restez dans la paix. Restez dans la sérénité parce que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous avez un fondement solide. Donc, ne vous faites pas voler votre liberté. Ne vous faites pas voler votre paix. On rencontrera toujours des gens prêts à démarrer un conflit. C'est inévitable. Le péché agit comme ça. Le péché agit dans les relations humaines. C'est son job, c'est son boulot. Parce que on n'est jamais autant touché, blessé, que par des gens proches. Des gens en qui on a confiance. Des gens en qui on s'est investi. Des gens en qui on a donné beaucoup. On ne peut pas être blessé par des étrangers. On ne peut pas être blessé par des gens qui sont un peu loin de notre vie. On est forcément blessé par des gens qui sont proches de nous. Donc, pas normal. La première chose que l'ennemi va susurrer à votre oreille s'il y a un conflit qui démarre, il va vous dire, c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'elle te fait. C'est pas normal ce qu'elle te dit. Tout, systématiquement, ça se passera comme ça. D'accord ? Vous, vous avez la réponse. Vous battez pas avec les pourquoi. Vous dites, c'est le péché qui a attaqué. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec ce que l'autre me fait ? Comment je réagis avec l'autre ? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la personne. Comprenez bien, on peut la confronter dans l'amour. Le truc, c'est de ne pas se laisser embarquer par les émotions. C'est de ne pas rentrer en conflit avec la personne. C'est d'avoir ce bouclier d'amour pour dire que moi je l'aime cette personne-là. On n'a pas créé une amitié comme ça au hasard. On n'est pas frères et sœurs au hasard. On n'a pas vécu des choses ensemble pour que ça soit d'un revers de main balayé. Non. Moi, je l'aime, cette personne-là. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Ou je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. D'accord ? Et je peux lui dire, et vous rappelez les expressions que j'ai utilisées, une main de fer dans un gant de velours. Si l'émotion ne prend pas le dessus, vous serez capable de rester calme, tranquille. Vous gérez vos émotions, mais on gère les émotions. Comment on gère les émotions ? Parce qu'on ne laisse pas laisser paraître l'émotion, ce qu'elle semble dire. On ne la laisse pas nous pénétrer. Ressentir n'est pas consentir. Ce n'est pas parce que tout d'un coup l'émotion vient essayer de m'attraper que je suis d'accord avec ce qu'elle essaye de me faire dire. Non, pas du tout. Je ne suis pas dans l'émotion. Au contraire, je suis très rationnel. Je sais qui je suis. Je suis aimé en Christ. J'ai de la valeur. Donc là, j'y crois pas à ça. Elle me le dit, ok, mais je ne suis pas fou. Il y a une attaque spirituelle derrière tout ça. On veut détruire notre relation. On veut casser la relation. Donc je ne suis pas d'accord. C'est pas qui décide de ma vie ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qui décide de ma vie ? Le péché, encore une fois, à travers cette attaque ? La personne qui est devant moi, qui se fait manipuler tout d'un coup ? Et c'est elle qui va décider de qui je suis, de ma vie ? Mais non, j'ai été affranchi. J'ai été affranchi par le Seigneur. Je ne suis plus esclave de ça, moi. Et vous non plus, d'ailleurs. Vous n'êtes plus esclave de ça. Mais votre réaction va vous en dire beaucoup sur votre conception, la nouvelle conception, sur qui vous êtes réellement. Si vous échouez, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il faut prendre conscience. Je ne suis pas encore assez fondé. Je ne suis pas encore bien encore dans le fondement de Christ. Seigneur, aide-moi à avoir la foi, qui je suis en toi, que je suis quelqu'un de bien en toi. Je suis une merveilleuse créature, j'ai de la valeur à tes yeux, je suis aimé par toi, tu ne m'abandonneras jamais, je suis aimé jusque dans l'éternité. C'est des choses incroyables, c'est ça que je suis. Ce n'est pas ce qu'on essaye de me faire croire là. Si vous comprenez tout ça, waouh, vous aurez fait des pas de géant dans vos relations les uns avec les autres. Et après, dans le calme, vous pouvez dire à la personne, mais tu vois ce que tu dis là ? Ben, je ne vois pas les choses de la même manière que toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'espère qu'elle sera d'accord au moins sur le fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Il y a des gens, si vous n'êtes plus d'accord avec eux, ils ne vous aiment plus. On retourne à la cour de récréation, on est en maternelle. Je ne t'aime plus. Tu n'es plus ma copine. Des fois, on est dans l'enfantillage. Incroyable. C'est qu'on n'a pas le même point de vue. On n'est pas d'accord. Il faut se fâcher. Disons, à ce rythme-là, on va tous se fâcher. Parce que 7 milliards d'individus sur la Terre, presque 8. Disons, s'il faut, on va aller trouver les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Non, il faut rester sain dans sa tête. Rester sain. Personne n'est dans l'émotion. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. C'est possible que je ne me suis pas rendu compte. Mais je vais m'excuser. Et écoute, mais oui, peut-être que tu as raison. Ou excuse-moi, je n'avais pas vu. Excuse-moi, je m'excuse. Qui n'a pas fait d'erreur ? Que celui qui n'a jamais fait d'erreur lui jette la première pierre. Bien, ça amène à réfléchir tout ça. Hein? Mais en tout cas, c'est plus le Seigneur va vous parler, plus le Saint-Esprit va vous parler, plus vous allez voir des changements dans vos relations les uns aux autres. Plus vous allez rester en paix, indétrônable. Vous allez rester fort, costaud, parce que c'est le Seigneur qui définit qui vous êtes. Amen. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tes enseignements. Seigneur, tu veux nous faire grandir. Tu veux, Seigneur, que cette liberté que tu nous as donnée, cette liberté pour laquelle tu as payé à la croix ton sang, Seigneur, ne soit pas vain dans nos vies. Que nous puissions nous emparer des promesses que tu nous as données. Que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Seigneur, on veut être libre de notre passé. On veut être libre de nos vieilles conceptions. On veut être libre, Seigneur, du peu de sécurité qu'on avait, de cette mauvaise estime de soi, de cette mauvaise confiance en soi. Seigneur, nous ne voulons plus être tributaires des hommes. Nous voulons, Seigneur, dépendre de toi, avoir le regard fixé sur toi, avoir cette conception qui vient de toi et qui nous fait aimer par toi et se sentir aimé par toi. Seigneur, aide-nous à entrer dans la foi. Aide-nous à grandir dans la foi. Aide-nous à vivre par la foi et non pas par la vue. Seigneur, nous voulons encore être plus près de ton cœur, Seigneur. Nous voulons être restaurés, Seigneur, afin de pouvoir être heureux, être libres, afin de pouvoir restaurer les autres autour de nous. D'être des bénédictions. Tu nous as donné ce ministère de la réconciliation. Alors, Seigneur, aide-nous à rentrer pleinement dans ce ministère de la réconciliation. Tu as commencé un travail extraordinaire en nous. Continue ton œuvre, Seigneur. Continue ton œuvre. Aide-nous à participer à cette restauration avec les moyens que nous avons, avec nos responsabilités que tu nous as données, afin que nous puissions te laisser faire pour le reste et nous attendre à toi. Que ce que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes, eh bien, c'est toi qui vas l'accomplir. Seigneur, merci pour toutes les choses qui vont prendre place, toute la restauration qui vont prendre place, nos vies qui vont changer. Le pardon qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et une maison propre, clean, un corps sain, dans une mentalité saine, dans un esprit sain. Ah Seigneur, tu veux notre sanctification, Seigneur. Aide-nous à marcher dans cette sanctification, Seigneur. Et à être guéri, à guérir de tous ces dégâts que le péché a pu faire en nous. Nous ne voulons plus, Seigneur, que ce péché continue à définir notre vie. Mais nous voulons que ce soit toi qui définissent notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.